L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Bonjour, c'est Jean-Alphonse Richard. Je vous retrouve. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission. Et si cette histoire vous a intéressé, si elle vous a passionné, et si vous voulez aller plus loin, eh bien, je vous propose tout de suite d'écouter le supplément de l'émission avec des questions qu'on a pu oublier ou que l'on n'a peut-être pas posées. Pour en savoir plus, eh bien, je vous propose de retrouver tout de suite la rédactrice en chef de l'heure du crime, Justine Vigneault, avec son invité.
Bonjour Maître Gallo.
Bonjour Madame.
On vient d'entendre Maître Bernard Boulou qui défend la famille de Anne-Charlotte Poncin dans l'heure du crime. Vous, vous défendez la famille de Margot Olivier. Mmh. Et on a besoin de vous entendre dans ce supplément de l'heure du crime. Mmh. On va commencer par le début. Est-ce que au début de l'affaire, ces deux femmes s'entendent bien? Est-ce que c'est un couple heureux, sans nuages?
Il y a ce qu'elle dit et ce que les gens disent de ce couple. Il y a eu un article qui a été publié dans le Dauphiné Libéré à Bourg-en-Bresse suite à la disparition de Anne-Charlotte Poncin. À cette occasion, le journaliste qui rédige l'article a fait état d'un couple qui s'entend très bien, qui vit heureusement, harmonieusement, et on voit même la photo de l'une et de l'autre sortant de la mairie à l'occasion de leur mariage. Et puis par la suite, il n'y a pas d'incident, de conflit qui ait été rapporté par qui que ce soit. Il y a une difficulté, c'est le changement d'identité sexuelle qu'Anne-Charlotte souhaite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle a le projet de devenir un homme. Ce que Margot Olivier ne comprend pas, puisqu'elle est homosexuelle, amoureuse d'une homosexuelle. Et ça, c'est une difficulté, je pense, qui a marqué profondément Anne-Charlotte Poncin, qui fait état de cette volonté qui n'est pas acceptée ni par ses parents, ni par Margot. C'est la difficulté, mais ce n'est pas un conflit, c'est une interrogation.
Au départ, votre cliente, elle a une conviction, elle se dit que sa femme a pu se suicider ou alors qu'il y a eu un accident, mais en aucun cas...
Moi je pense que ce qu'elle croit, ce qu'elle pense, ce qu'elle craint, c'est qu'elle soit partie sans lui donner... De nouvelles, d'informations. C'est une forme de trahison au départ qu'elle éprouve. Elle est partie, et elle ne fait pas l'hypothèse de la mort, parce que d'abord, l'affaire, c'est considéré que c'est irrévocable et que ce n'est pas ça qu'elle souhaite. Elle préfère également penser, d'une certaine manière, qu'elle est partie et que c'est un problème relatif à ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, le fait qu'elle ait refusé qu'elle devienne un homme et qu'ainsi elle devait envisager la rupture. Et donc, elle est partie parce qu'il y a une forme de rejet de la part de Margot, puisque si celle-ci tenait à ce point-là à être autre chose que ce qu'elle était, et que ce que connaissait Margot, nécessairement, il y avait un point qui pouvait susciter une interrogation et une douleur profonde de la part d'Anne-Charlotte. Donc ça, elle ne veut pas le penser, et elle estime, elle juge, elle pense qu'elle est partie sans lui donner de nouvelles. C'est pour ça que... elle peut exprimer même une forme de ressentiment à un moment donné en disant, c'est ce que reprend encore une fois l'avocat d'Anne-Charlotte Poncin, lorsqu'il dit que celle-ci se serait exclamée en disant qu'elle pouvait dans un SMS divorcer, c'était une façon de dire, puisque tu es parti, si tu m'entends, moi, je vais refaire ma vie puisque tu ne donnes pas de nouvelles. Parce qu'il ne faut pas oublier, parce que ça n'a pas été dit à l'occasion des propos tenus par les uns et les autres, Anne-Charlotte, il n'y a aucune raison que Margot pense qu'elle est plus décédée. Ce n'est pas concevable, ce n'est pas envisageable, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'elle se constitue partie civile au début du dossier. Ça, cela n'a pas été dit. Elle est constituée partie civile, elle veut elle aussi la vérité et la recherche de celle-ci.
Alors, parmi les éléments à charge, il y a ce téléphone portable. Margot va le rapporter aux gendarmes 3 jours après sa disparition, je crois. Il était resté coincé dans leur canapé. Qu'est-ce qu'on peut en penser de ça? Elle ne l'avait pas vu, pas entendu,
Alors, sonner. Le souci, c'est que si jamais elle l'a dissimulé volontairement, elle ne l'a pas égaré, elle ne s'est pas retrouvée là, par hasard. Et qu'est-ce qu'elle en a fait? C'est quoi l'intérêt de ce portable? Il y a quoi dans le portable? Est-ce qu'il n'a pas été expertisé, ce portable? Vous savez, dans toutes les enquêtes policières, on exploite le téléphone. Or, qu'est-ce qu'il dit, le téléphone? Rien. Est-ce qu'il dit que Margot Olivier a manipulé le téléphone de telle manière? Est-ce qu'elle a soustrait des informations qui auraient pu être utiles à la manifestation de la vérité? Négatif. Il n'y a pas de manipulation de la part de Margot Olivier de ce téléphone. Donc on essaye de faire exister des indices que la vérité contredit de manière spectaculaire. Ce téléphone qui reste dans le canapé, pour une raison ou pour une autre, ne parle pas et ne dit rien. Si Anne-Charlotte était un peu anxieuse ou angoissée ou s'interrogeait, ou ben, si elle laisse son téléphone, c'est conforme à l'état d'âme qui était le sien, qui est un peu pas bien, quoi, qui nous permet d'envisager une autre solution que celle du crime.
Et en ce qui concerne la découverte sur son ordinateur, avec ce document retrouvé qui interroge, parce que ça s'appelle « Chronique des meurtres parfaits
». Cette page-là, il n'est pas établi que c'est une page construite par Margot Olivier. C'est plutôt Anne-Charlotte qui aurait consulté cette page. C'est pas un indice. Et puis surtout, c'est découvert des années après, donc ça n'a pas de... En fait, regardez... Pour établir que quelqu'un a pu commettre un crime, il faut donner des éléments qui justifient de l'existence de cette infraction. Là, on est sur le fait qu'on ait exploité une page. Or, dans le crime lui-même, quels sont les éléments qui permettent de dire qu'il y a eu un crime ? Or, ce que nous savons depuis le début, c'est qu'il n'y a même pas d'existence du commencement de la moindre preuve que la pauvre Anne-Charlotte soit décédée des mains d'un tiers. Nous n'avons encore aucune certitude sur les circonstances du décès d'Anne-Charlotte Ponsin. Au bout de 2 ans d'information judiciaire, le juge d'instruction qui est saisi de ce dossier écrit sans doute un peu trop rapidement qu'on ne sait pas de quoi est morte Anne-Charlotte. Donc comment voulez-vous reprocher à quelqu'un une infraction alors même que l'infraction elle-même n'existe pas dans les faits qui ont été rapportés et recherchés ?
En ce qui concerne les aveux de votre cliente, elle a fait des aveux et puis elle s'est rétractée. Vous dénoncez le contexte dans lequel ces aveux ont été formulés. Vous pensez qu'en gros, les gendarmes lui ont mis la pression et qu'ils lui ont extorqué ses aveux. C'est bien ça ?
Alors, d'abord, il n'y a jamais eu d'aveux. Les aveux, c'est lorsque on demande à quelqu'un si elle est impliquée ou il est impliqué dans les faits qui justifient la mise en examen ou les soupçons qu'on a contre elle. Les aveux, c'est dire « oui, c'est vrai, c'est moi ». Or, c'est pas ça qu'elle dit. Il n'y a jamais eu d'aveu. Elle dit « je l'ai retrouvé dans le salon, je l'ai pris en charge et une fois, elle a dit « je l'ai jeté d'un pont et une fois, elle l'aurait mis je ne sais où ». Voilà ce qu'elle dit. Elle ne parle pas d'aveu. Et d'ailleurs, ses aveux, à la fin de la garde à vue, il ne faut pas oublier les conditions dans lesquelles elle aurait tenu ses propos, mais si vous voulez, j'y reviens, mais toujours est-il que, juste après, elle tape à la porte dans laquelle elle est enfermée dans la geôle, et elle dit « je veux être entendue à nouveau, ce que je vous ai dit à propos de l'avoir trouvée dans le salon, ce n'est pas vrai, ce sont des âneries, c'est faux ». Donc il n'y a pas d'aveu pendant la garde à vue. Par contre, cette dernière phrase et les propos qu'elle a tenus, il y a un contexte et des circonstances qui permettent de dire que ces propos lui ont été imposés. Elle est seule, il n'y a pas d'avocat à ses côtés. Les gendarmes vont profiter de cette situation pour lui dire « Madame, vous avez 3 solutions. La solution haute, c'est le meurtre. La deuxième, ce sont les violences volontaires et entraîner la mort sans intention de la donner. » Et la troisième, à laquelle vous seriez exposé et qui est la moins grave, c'est le suicide. Alors vous avez le choix. Et là, je le dis poliment et je le dis gentiment et je le dis pas en m'énervant. Mais la manière dont ils l'ont dit n'a rien à voir avec ça. On frappe sur la porte, sur la table, on fait du bruit, on insulte et on propose. Et madame, bien entendu, pour se soustraire à la pression en question, dit ben, je l'ai trouvée morte dans le salon. Voilà la réalité de cette garde à vue. Nous estimons que cette méthode est déloyale.
Comment elle va, votre cliente, aujourd'hui ? Elle est fragile, on a dit qu'elle était suicidaire, enfin qu'elle avait des idées noires. Dans quel état d'esprit elle est aujourd'hui ?
Lorsqu'elle a été incarcérée, elle allait tellement mal, là, pendant les 10 mois en question, que j'ai demandé justement une expertise psychiatrique afin de vérifier objectivement l'état dans lequel elle est. Et il a été répondu qu'il y avait un risque de suicide de moyen à sévère. Donc, un risque de suicide réel. Là, elle a été libérée et elle a retrouvé du travail, mais elle ne va pas bien pour autant. Elle est suivie psychologiquement.
Vous attendez un procès, vous ?
Je vous dis, j'ai un sentiment paradoxal parce que j'aimerais bien que le scandale, que l'attitude des gendarmes adoptée, tout le monde sache ce que les gendarmes, dans certaines situations, s'autorisent, ce qui pourrait susciter une réaction destinée à interdire ce type de comportement. Mais bien évidemment, j'espère qu'il n'y ait jamais de procès. Entre le plaisir que j'aurai à dénoncer ces faits et celui que j'éprouverai face à la vérité, je préfère la vérité et je préfère que ma cliente obtienne ce à quoi elle a droit, c'est-à-dire un non-lieu.
Merci beaucoup, Maître Gallo, de m'avoir répondu.
C'est moi qui vous remercie pour m'avoir donné la parole.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.